100% d'Europe, Juliette Rangeval.
My name is Osman, here for no reason, alone in prison for many a season.
Bonjour. En prison, sans raison, Osman Kavala est emprisonné depuis plus de 4 ans en Turquie. Accusé d'avoir financé les manifestations anti-gouvernementales du parc Gezi en juin 2013 et d'être impliqué dans le coup d'État manqué de juillet 2016. Mais la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'Osman Kavala est poursuivi sans preuve et détenu pour des motifs politiques. À la majorité des 2/3 de ses membres, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a décidé le 2 décembre dernier de lancer contre la Turquie une procédure d'infraction. C'est une procédure rarissime, motivée par le refus turc de libérer l'homme d'affaires et mécène. Une nouvelle audience de son procès a lieu ce lundi, 17 janvier. La Turquie a encore une chance d'échapper aux sanctions si Osman Kavala est enfin libéré. À Istanbul, Anne Andlauer.
Ce lundi 17 janvier 2022, cela fait 1539 jours qu'Osman Kavala est privé de liberté. Emprisonné alors qu'il n'a reçu aucune condamnation, qu'il a même été acquitté il y a bientôt 2 ans. Jusqu'ici, la justice et le pouvoir turc ont usé de tous les stratagèmes pour maintenir derrière les barreaux cet homme d'affaires et philanthrope, connu pour ses projets portant sur des causes sensibles, telles que la question kurde ou le dialogue turco-arménien. Une succession d'enquêtes et de procès ont sans cesse prolongé sa détention préventive, alors même que la Cour européenne des droits de l'homme a réclamé en décembre 2019 sa libération immédiate. Le refus de la Turquie d'appliquer ce jugement lui vaut aujourd'hui l'ouverture d'une procédure en infraction au Conseil de l'Europe qui peut aller jusqu'à son exclusion de cette institution dont elle est membre depuis 1950. Mais même au pied du mur, les autorités d'Ankara continuent de défendre l'emprisonnement d'Osman Kavala en invoquant divers prétextes. L'avocate turque Benan Molu, spécialisée dans les droits de l'homme et la justice européenne.
Au tribunal, on entend les magistrats affirmer que les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, lient évidemment la Turquie, mais que ce jugement de libération ne s'applique pas à l'affaire en cours puisqu'il s'agit d'un autre procès. Même chose dans les défenses écrites des autorités turques auprès du Conseil de l'Europe. Jamais personne ne soutient que la Turquie n'est pas tenue d'appliquer les arrêts européens, jamais. Pourtant, dans le même temps, le chef de l'État déclare aux médias qu'il ne reconnaît pas ces jugements et l'un de ses conseillers affirme que les arrêts de la CEDH sont contraignants sur la forme mais pas sur le fond. Ça n'a strictement aucun sens juridique. Cela démontre bien que cet homme est emprisonné pour des motifs politiques sans aucun fondement juridique.
En décembre, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a notifié à la Turquie le lancement de la procédure en infraction. Il lui a donné jusqu'au 19 janvier, c'est-à-dire dans 2 jours, pour annoncer ses intentions. Or, Osman Kavala comparaît à nouveau ce 17 janvier. S'il n'est pas libéré à l'issue de l'audience ou dans les jours qui viennent, le Conseil de l'Europe enclenchera formellement la procédure le 2 février. Milena Büyüm, chargée de campagne sur la Turquie à Amnesty International.
Tout cela montre que la Turquie est engagée sur une route très dangereuse. Le point le plus important de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2019 est qu'elle constate qu'Osman Kavala est effectivement maintenu en détention dans un but politique. Sur la forme, vous avez bien un tribunal, des juges, un procureur, un acte d'accusation. Mais dans cet acte d'accusation, il n'y a absolument aucune preuve des prétendus crimes. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe n'a pas du tout été convaincu par les justifications des autorités turques. C'est bien pour ça qu'il a lancé une procédure d'infraction.
Dans leur arrêt de décembre 2019 réclamant la libération d'Osman Kavala, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont estimé que l'emprisonnement du mécène poursuivait un but inavoué, à savoir le réduire au silence et dissuader d'autres défenseurs des droits de l'homme. Milena Büyüm confirme.
Les restrictions à la liberté de rassemblement, les interdictions de manifester, les poursuites à l'encontre de ceux qui font usage de ce droit, les arrestations de journalistes, le renforcement des contrôles visant les ONG et l'usage de ces contrôles comme d'un outil de pression. Le traitement d'Osman Kavala a un impact sur la société civile, mais dans quelle mesure produit-il les effets souhaités par le pouvoir? Je constate qu'en dépit de toutes les pressions, les organisations de la société civile sont toujours debout en Turquie, qu'elles continuent leurs actions, qu'elles font entendre leur voix, et je pense que cela continuera.
istiyorum. Olmaya da devam edecek bence.
Que se passera-t-il si la justice turque refuse de libérer Osman Kavala? Ou plutôt, si le président Recep Tayyip Erdogan continue de faire pression ouvertement sur la justice pour qu'elle maintienne en détention cet homme qu'il accuse d'être le Soros de Turquie, en référence au milliardaire américain George Soros, soupçonné par ses détracteurs de déstabiliser des gouvernements. Personne n'a la réponse, souligne l'avocate Benan Mourlu.
On parle d'un éventail de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion de la Turquie du Conseil de l'Europe, mais nous ne connaissons pas ces autres sanctions possibles. Cela pourrait être par exemple la suspension du droit de vote de la Turquie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ou au sein du Comité des ministres, mais on n'a pas de précédent, les choses ne sont jamais allées aussi loin et rien n'est écrit noir sur blanc. Donc, on n'a aucun moyen de savoir quelles sanctions peuvent être choisies et suivant quel calendrier.
Les proches et les soutiens d'Osman Kavala veulent croire que sa libération est proche, que le pouvoir turc joue la montre, mais va se résoudre à mettre fin au tourment du mécène. Quand, comment, dans quel but ? Rien n'est prévisible dans cette affaire, comme dans tout ce qui concerne désormais la Turquie du président Recep Tayyip Erdogan. Listen, keep the money in my plan, keep the money in my plan. All right then,
Osalad is another Osasang. At least every Osalad, the Mosaban. Les prix de l'énergie flambent sur les marchés européens. Depuis la mi-décembre, le Kosovo est confronté à la plus grave crise de l'énergie depuis son indépendance, il y a 13 ans. Des coupures quotidiennes ont dû être mises en place. Et c'est dans ce contexte tendu que le petit pays des Balkans vient d'interdire le minage de crypto-monnaies. Alors, un mot d'explication. Dans le monde des crypto-monnaies, miner, ça ne veut pas dire creuser la terre ou extraire du charbon. Le terme concerne une étape cruciale et un principe fondamental des crypto-monnaies. C'est l'acte qui permet de s'assurer de l'intégrité de la blockchain, de créer de nouvelles unités de crypto-monnaie et qui fait fonctionner tout l'écosystème. Les précisions de Simon Rico.
C'est une première pour un État européen. En annonçant l'entrée en vigueur de l'interdiction du minage des crypto-monnaies, la ministre de l'économie, Artan Rizvanoli, veut limiter le gaspillage d'électricité. Il faut dire que le minage de crypto-monnaies est particulièrement gourmand en courant et que, de l'aveu même de la Compagnie nationale d'électricité, le Kosovo fait actuellement face à la pire crise énergétique au monde. La situation est telle que malgré les températures glaciales de l'hiver, des coupures quotidiennes tournantes de 2 heures ont dû être mises en place, faute de pouvoir assurer l'approvisionnement de tout le pays. D'autant plus que depuis la mi-décembre, une des 2 centrales à charbon du pays a dû être mise à l'arrêt à cause d'une panne. Pour faire face à la pénurie, le Kosovo doit aujourd'hui importer 40% de son électricité à prix d'or du fait de la situation mondiale très tendue. Mais l'interdiction du minage est-elle légale? Si le gouvernement kosovar dispose d'une base juridique pour prendre des mesures restrictives sur la consommation d'électricité, il ne semble en revanche pas y avoir de cadre juridique pour interdire le minage de crypto-monnaies. Fin octobre 2021, le Premier ministre Albin Kurti a bien annoncé qu'une nouvelle loi sur les crypto-monnaies avait été rédigée et promis son adoption au Parlement avant la fin de l'année, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà qui n'a en tout cas pas empêché la chasse aux contrevenants de commencer. Depuis le 7 janvier, environ 300 équipements informatiques destinés au crypto-minage ont déjà été saisis par la police du Kosovo. Aucune arrestation n'a toutefois été signalée. Pain.
En Bulgarie, les prix de l'électricité ont triplé depuis l'été dernier. Alors, si pour les particuliers, les tarifs sont régulés par un organisme public indépendant, ce n'est pas le cas pour les entreprises qui doivent faire face à une intense spéculation sur les tarifs de l'énergie. Déjà touchées par la pandémie de Covid, beaucoup de petites entreprises familiales se trouvent désormais au bord du gouffre et pourraient bien faire faillite. À Sofia, Damien Vodenicharov.
Anton Mitov et sa compagne Maria vivaient aux États-Unis quand, en 2014, ils décident d'abandonner des métiers bien payés pour rentrer en Bulgarie et ouvrir une boulangerie dans le village natal de Maria. Le succès est au rendez-vous, les médias en raffolent, voir des équipes de télé en tournage dans la boulangerie devient chose courante. et tout va très bien jusqu'à la flambée des prix de l'électricité.
Avant, notre facture d'électricité était de 500 euros environ. Maintenant, on a des notes de l'ordre de 1500 euros. Les prix ont triplé. Il ne s'agit pas là de 10-15%. Alors, nous avons augmenté nos prix aussi, autant que possible. Le problème, c'est qu'il y a une limite à cette augmentation. Sinon, c'est trop cher. Les revenus des gens, eux, n'ont pas augmenté de 300%.
Et comme les prix des produits de base sont également à la hausse, la situation est devenue intenable pour la boulangerie familiale.
Nous étions une petite entreprise avec 7 employés. Nous avons dû licencier la plupart d'entre eux. En ce moment, nous travaillons avec 2 personnes seulement. Ma compagne et moi devons donc compenser le manque de main-d'œuvre. Il y avait un marché de Noël dans notre village et nous ne dormions que 2 ou 3 heures par nuit. On ne faisait que travailler et vendre nos produits au marché.
En Bulgarie, il y a 2 systèmes de vente d'électricité. Pour les particuliers, les prix sont régulés par un organisme public indépendant. Pour les entreprises, en revanche, les tarifs sont libres et les prix se sont envolés. Ils s'élevaient à 60 euros le mégawatt en mai 2021. Ils avoisinent désormais les 300 euros. Les contrats d'achat sont aussi très favorables aux spéculateurs, comme l'explique Ivan Inovski, du Forum bulgare de l'énergie et des mines, un think tank.
Partout dans le monde, les grands consommateurs d'énergie concluent des contrats à long terme. Ça concerne 80% de l'électricité cotée en bourse en Europe de l'Ouest et d'habitude, ça tire les prix vers le bas. En Bulgarie, il n'existe pas de régulation comme à l'Ouest. Du coup, toutes les entreprises achètent de l'électricité du jour au lendemain, ce qui stimule la volatilité des prix. Les entreprises en souffrent, ainsi que les fournisseurs d'énergie qui sont aussi obligés de payer cher.
Les aides du gouvernement aux entreprises, qui sont de 55 euros par mégawatt, sont bien loin du compte avec les prix actuels. Et la crise ne se limite pas aux professionnels, les ménages pourraient être aussi touchés. Le Parlement a bien voté un moratoire sur les prix de l'électricité pour les particuliers, mais les experts craignent que cette mesure ne provoque une flambée des prix au printemps, quand le moratoire prendra fin, à laquelle risque de s'ajouter une série de faillites parmi les PME.
La flambée des prix de l'énergie intervient alors que la gravité de la crise climatique impose de renoncer à la plupart des énergies fossiles actuelles et qu'il n'existe pas de solution idéale. Le nucléaire fait peur, mais il n'émet pratiquement pas de CO2. Le gaz, qui ne règle pas la question de la décarbonation, place lui l'Europe dans une situation de dépendance face à la Russie de Vladimir Poutine. Mais ces 2 sources d'énergie disposent d'un immense avantage, celui d'être utilisables à tout moment, même lorsqu'il n'y a pas de vent pour faire tourner les éoliennes ou de soleil pour alimenter les panneaux solaires. Au-delà de la politique menée au niveau européen, c'est bien aux gouvernements nationaux qu'il appartient de trancher entre réaction à l'urgence et maintien du pouvoir d'achat. En Suède, par exemple, la flambée des prix de l'électricité a relancé le débat sur le nucléaire. À 9 mois des élections législatives, en septembre 2022, la droite conservatrice et l'extrême droite ont lancé une campagne pour stopper l'arrêt des dernières centrales et en construire de nouvelles. Anne-Françoise Hiver.
6 milliards de couronnes, soit 60 millions d'euros, voilà la somme que l'État suédois va débourser pour venir en aide aux ménages dont les factures d'électricité atteignent des records ces dernières semaines. Les syndicats mettent en garde, l'inflation causée par la hausse du prix de l'électricité va exiger une augmentation conséquente des salaires. Des industries menacent de mettre la clé sous la porte. Sur le papier, pourtant, la Suède ne manque pas d'électricité. Au contraire, même entre juin et décembre, ses exportations ont dépassé ses importations tous les jours, sauf 2. Et c'est précisément cette pression de la demande hors des frontières suédoises qui pousse les prix à la hausse. En Suède, pourtant, le débat est tout autre. On parle du manque de vent pour alimenter les éoliennes, du manque d'eau dans les barrages hydroélectriques, des réacteurs qui fonctionnent au ralenti et d'une météo glaciale. Pour la droite et l'extrême droite, il n'y a qu'une solution. Il faut investir dans le parc nucléaire qui assure 30% de la production d'électricité en Suède. Actuellement, 6 réacteurs sont encore actifs dans 3 centrales. 4 ont fermé depuis 2017. Les autres devraient suivre. Or, les besoins en électricité pour décarboner l'industrie suédoise vont exploser dans les prochaines années. Officiellement, les sociaux-démocrates à la tête du gouvernement sont contre la construction de nouvelles centrales, mais des tensions au sein du parti commencent à émerger et le sujet pourrait devenir un des principaux thèmes de la campagne électorale qui débute. Ah, oh,
mercredi, Emmanuel Macron présentera aux eurodéputés les priorités de la France qui a pris la présidence du Conseil de l'UE pour 6 mois. Il a déjà annoncé en décembre en conférence de presse les 3 axes de cette présidence française. Relance, puissance et appartenance. Mais tout volontariste que soit le président français, cela suffira-t-il à imprimer sa marque sur la politique bruxelloise ? C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Vous avez entendu le discours d'Emmanuel Macron sur la présidence française de l'Union européenne ? Tout ce que va faire la France pour l'Europe, en seulement quelques mois, grâce à Paris, l'Europe va devenir pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Une puissance incontestable au même titre que les États-Unis ou la Chine. Ça va être tellement bien, la présidence française de l'Union européenne. Mais aussi compliqué, car pour faire évoluer les choses dans l'Union, ça prend du temps. Pour avoir une loi, par exemple, il faut que la Commission rédige une proposition. Ensuite, elle est discutée avec le Conseil et le Parlement. C'est ce qu'on appelle le trilogue.
If a draft agreement is reached at the trilogue,
si un projet d'accord est trouvé en trilogue, le Parlement le soumet à l'Assemblée plénière pour qu'il soit adopté. Ensuite, si les ministres du Conseil acceptent la position du Parlement, la proposition de loi est adoptée en première lecture. Si aucun accord n'est trouvé en première lecture, les discussions continuent en seconde lecture. Et s'il n'y a toujours pas d'accord, on met en place un comité de conciliation. S'il parvient à un accord, la proposition législative est adoptée par le Conseil et le Parlement. Le texte est publié dans le journal officiel dans toutes les langues de l'Union européenne et devient une loi européenne.
Tout ça prend en moyenne 2 ans et demi. Ensuite, si c'est une directive, la loi doit être transcrite dans le droit national de chaque État membre. Environ 2 ans de plus. Les règlements, eux, s'appliquent directement. Pour résumer, ça n'est pas la présidence tournante, aussi volontariste soit-elle, qui va révolutionner la bureaucratie bruxelloise.
Tu connais, toi, la circulaire B65 ?
Attends, la circulaire B65 ?
Oui, concernant le laissez-passer A39.
Ah non, pas du tout. Tu vois, il faudrait se renseigner au bureau du contrôleur de coordination des archives à venir.
C'est au 5e étage, escalier Z, couloir U, je crois.
Bruxelles et ses lenteurs, ses pesanteurs. C'est l'argument de nombreux opposants à l'Union, comme Nigel Farage. L'ancien eurodéputé britannique le répétait dans son dernier discours au Parlement européen, début 2020.
Ce que nous voulons de l'Europe, c'est du commerce, de l'amitié, de la coopération et de la réciprocité. Nous n'avons pas besoin de Commission européenne, de Cour européenne, de ses institutions et de tous ses pouvoirs. Je vous promets que dans le parti du Brexit, nous aimons l'Europe. C'est l'Union européenne que l'on déteste.
Pourtant, en temps de crise, l'Union européenne sait aussi réagir. Il y a des succès des institutions dont les peuples européens ont bénéficié. Prenons la pandémie. Depuis le 1er juillet, le certificat sanitaire européen permet de voyager dans tous les pays de l'Union européenne. Vu le chaos, quelques mois plus tôt, ça n'était pas gagné. Il y avait des désaccords sur la gratuité des tests, sur les vaccins acceptés pour certifier l'immunité. Mais les 27 sont parvenus, en 3 mois environ, à faciliter la mobilité des Européens. Autre réponse à la crise, le plan de relance. Là non plus, ça n'a pas été simple. Souvenez-vous, en juin dernier.
Toujours pas de fumée blanche, toujours pas d'accord sur le plan de relance, c'est-à-dire cet argent à donner ou prêter aux États pour panser les plaies économiques liées au Covid-19. Les 27 ne sont toujours pas d'accord sur ce montant de 750 milliards d'euros. Pays-Bas et Autriche en tête. Les négociations reprendront cet après-midi sur le coup de 16 heures.
Finalement, la Commission a emprunté sur les marchés pour ce plan. Autrement dit, les États ont accepté la mutualisation de la dette. Alors il a fallu environ 1 an, mais c'est un sujet débattu depuis des années qui s'est enfin débloqué avec le Covid. Alors oui, les procédures européennes peuvent être kafkaïennes, mais elles permettent aussi de protéger les droits des Européens dans des délais loin d'être ridicules, vu les enjeux.
Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.